Nous sommes le jeudi 24... non, le 15 mai, excusez-moi.
Oh là là,
t'es vachement en avance.
Ah ben oui, non, mais je pensais qu'on était déjà dans une semaine. Nous sommes le jeudi 15 mai, il est 21h et des poussières sur Radio Canus en 2.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Comment vas-tu?
Ben, ça va pas mal.
Est-ce que tu as passé un bon week-end?
Absolument, un bon week-end, même si je l'ai passé avec toi. on a passé un très bon moment. Parce qu'on était à l'Indie Game Lyon.
Effectivement, c'était la 6e édition de l'Indie Game Lyon. On avait reçu Bettina il y a déjà quelques semaines pour nous parler de ce qui allait se passer. Et elle nous avait pas menti. Il s'est passé tout ce qu'elle avait dit. Et c'était vachement bien. Plein de jeux à essayer, plein de développeurs avec qui discuter, plein de conférences aussi intéressantes, et même du concert auquel j'ai assisté, contrairement à certains.
On était occupés, on discutait avec des gens. Tu sais ce que c'est Il y a des gens, tu vois, ils ont l'habitude, en fait, quand tu leur parles, ils aiment bien te présenter un peu ce qu'ils font, échanger avec toi.
Ouais.
Bon, toi,
ouais.
Visiblement, toi, tu préférais t'isoler et pas parler aux gens.
Il y avait une fanfare qui jouait un morceau de Undertale. Désolé, il y a des priorités dans la vie.
C'est vrai que la fanfare, c'était cool.
Ouais, c'était très très bien.
C'était cool, mais j'étais un petit peu occupé juste avant la fanfare à gagner le quiz. Mais enfin.
Franchement, je suis fier de toi. Pas d'avoir gagné le quiz, mais de le placer comme ça, de façon. Ah, c'est bien.
Hey.
C'est méprisable. J'aime beaucoup.
On apprend des meilleurs.
On apprend des pires.
Oui, j'apprends de toi.
Exactement.
Voilà.
Je tiens à signaler qu'on ne va pas faire une émission spéciale Indie Game Lyon, tout ce qu'on a vu et tout ce qui était cool là-bas, parce que cette émission, on l'a déjà faite en stream.
Absolument, on l'a faite hier en streamé ensemble avec Lissandra.
Sur son Twitch,
c'est le mien, du coup, aussi.
Oui.
Alors, du coup, on a déjà effectivement fait un gros débrief. On a parlé des jeux auxquels on a joué, des gens qu'on a rencontrés qui font les jeux.
En présence aussi des développeurs.
De certains développeurs qui étaient sur le chat.
Ouais.
C'était très, très cool, d'ailleurs, justement, de pouvoir échanger directement et qu'il y ait eu un retour en direct et des échanges et des informations qu'on n'avait pas forcément. Enfin, c'était vraiment parfait comme format.
Donc si vous voulez retrouver tout ça, soit le replay sur ta chaîne Ruvon, donc R-U-V-O-N _.
Tout à fait.
Et sinon sur la chaîne de Lissandra, L-Y-S-A-N-D-R-A.
Voilà.
Sur Twitch, pour les deux.
C'est l'émission d'hier après-midi, qui a commencé à 15h à peu près chez elle.
15h, on a fini vers 19h.
Ouais, c'est ça. Moi, ça avait commencé plus tôt, parce que du coup, j'ai fait un bout d'émission sur l'actu, mais voilà. Mais du coup, si on parle pas de ça... De quoi donc qu'on parle?
On va parler d'un studio et de son co-directeur.
Du coup, plutôt du co-directeur directeur.
On va parler un peu du studio et beaucoup de son co-directeur. On va parler de Moon Studio, qui est connu notamment pour la saga des Ori.
Okay.
Et de son directeur qui s'appelle Thomas Mahler, qui est connu pour être un sac à merde.
Direct.
Oui, voilà.
Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de discussion.
Mais effectivement, mais surtout ça se sait depuis quelque temps et ça s'est exprimé d'autant plus la semaine dernière avec un bon coup de pompier pyromane comme Thomas Mahler en a le secret. Mais avant d'arriver justement à ce coup de pompier pyromane, on va revenir à l'origine. C'est quoi Moon Studio? Qui est Thomas Mahler?
Surtout que tu dis que c'est le co-directeur, du coup ça peut être intéressant de savoir qui est l'autre. Mais
voilà, exactement.
Je t'écoute parce que
très bien.
J'ai rien foutu, donc je t'écoute.
T'as pas rien foutu, je crois.
Non,
que
j'ai pas rien foutu, j'ai des choses à dire. Mais...
Je t'ai dit, il s'est passé quoi la semaine dernière, parce que si j'en parle, je vais encore m'énerver. Donc, donc là, je vais un petit peu libérer plein de trucs qu'on se dit hors antenne sur Thomas Mahler.
Depuis un moment, ouais. Parce que
et
c'est...
qui ne se savent pas parce que Thomas Mahler... Et n'est pas un Américain. Et
en tout cas, n'est pas anglophone de naissance.
De naissance, voilà. Et ce qui fait qu'il est passé sous le radar de façon totalement injuste.
Pour des raisons linguistiques.
Uniquement. Moon Studio, c'est un studio qui a été créé en 2012 et qui est connu notamment pour la série des jeux Ori, qui sont des jeux de plateforme aventure. Jeux, le Ori and the Blind Forest qui est sorti en 2015 et sa suite Ori and the Will of the Wisps, qui est sorti en 2020. Deux jeux qui ont été très appréciés du grand public, notamment grâce à son gameplay de jeu de plateforme très satisfaisant, sa réalisation artistique remarquable, aussi bien au niveau de l'image et au niveau du son, et aussi grâce à ses personnages attachants. Et je peux le dire avec d'autant plus de confiance que je suis un grand fan de ces deux jeux. Qui sont vraiment parmi mes jeux préférés, même en sachant.
C'était quand même avant de savoir.
C'était avant de savoir, mais ça
change rien.
Ça change rien à la qualité du jeu en question. On va pas faire un débat à perdre en Quentin aujourd'hui, s'il vous plaît.
Oui. Alors, l'artiste, l'œuvre, l'œuvre collective.
Merde, d'accord.
Dirigée par un artiste, en tout cas. C'est plus ou moins son rôle, non ?
Alors oui, effectivement, le truc c'est que c'est un studio qui a été créé par deux personnes. Une personne qui s'appelle Gennady Korol, qui est qui a un passé plutôt dans l'animation, l'animation de genre dessin animé, animation 3D, etc. Et Thomas Mahler, qui lui venait de Blizzard Entertainment. J'ai cherché, j'ai pas trouvé le poste qu'il avait chez Blizzard Entertainment en Europe, en tout cas. Mm-hmm. Il faut savoir que Gennady Korol, lui, il est israélien, et Thomas Mahler, lui, est autrichien.
Ok. Voilà. Et le studio est basé
Le studio est basé nulle part. On va y revenir.
Très bien. Les structures flottantes.
C'est ça. C'est voilà. Derrière le nuage là-bas.
Oui, bah oui, évidemment.
Dans le cloud.
C'est ça, exactement. Je porte pas un t-shirt mais équipes pour rien. Bref, mais
en 2022, après les deux Ori, le studio jouit en fait d'une excellente réputation publique, vu qu'il a fait deux jeux qu'on pourrait considérer comme wholesome. Des jeux d'une grande qualité, aussi bien artistique en termes de ludique. Et c'est un studio indé et on se dit ok, c'est vraiment le studio à suivre, qui est super cool, qui fait des jeux auxquels on a envie de jouer, qu'on veut donner à tout le monde, parce que c'est des super jeux.
Et en plus de ça, oui, comme tu le dis, ils sont, tu disais le terme wholesome, c'est-à-dire qu'ils sont complètement, il y a vite fait des combats, mais on n'est pas dans de la violence, on n'est pas dans du gore, on est dans les choses relativement mignonnes.
On est dans des trucs assez mignonnes, mais avec quand même des thématiques où on essaie de tirer sur la corde sensible. D'ailleurs, c'est marrant, t'as un t-shirt Miyazaki, c'est clairement, il y a une influence des films de Miyazaki avec le côté la nature, mais le côté aussi un peu brutal que peut avoir la nature de temps en temps, etc. Avec avec la destruction, etc. Il y avait tous les thèmes qu'il fallait pour que ce soit les indie darlings, comme on dit.
Oui, en tout cas, ils faisaient partie de la discussion, clairement. Depuis 2015, en fait.
Depuis le premier jeu.
Et ils l'avaient confirmé en 2020. Ouais.
C'est ça.
On ne s'était pas spécialement intéressé au studio en lui-même depuis.
Non, c'était pas clair. Sachant qu'il n'y avait pas d'écho plus que ça. En 2022, il y a le site VentureBeat qui a écrit un article, et un article écrit par Dean Takahashi. Dean Takahashi il a fait des choses discutables dans sa vie en termes de passe-plat, mais là, il a fait une vraie enquête.
Auprès de Quantic Dream, notamment, qu'il avait quand même servi servi de porte-voix finalement à la défense de Quantic Dream dans les allégations et les procès en cours.
Et si avec ça, tu veux qu'on parle de Randy Pitchford ?
Moi, j'ai Quantic Dream en tête parce que c'est un studio français, c'était David Cage, c'était tout ce...
Voilà. Mais on se souvient avec Randy Pitchford, ou si c'est servi la soupe.
De Randy Pitchford, de Gearbox, jeux Borderlands en général.
Bien sûr, et puis Bobby, évidemment.
Et Bobby Kotick, mais ça, Bobby n'est jamais bien loin.
Voilà.
Quand on parle de connards dans le jeu vidéo, Bobby n'est jamais bien loin.
Voilà, donc Dean Takahashi, qui a plutôt la réputation d'être un sacré passe-plat, là, il a signé un article et vraiment.
C'est d'autant plus fourbe, en fait. C'est d'autant plus fourbe. Ouais, quand les mecs, on les attend pas. C'est comme IGN l'autre jour qui avait fait un article sur Deck Nine et Life is Strange. D'où ça sort?
Non, mais qu'est-ce qui vous prend, les gars? Vous êtes méchants là-haut, calmez-vous.
Depuis quand vous faites du journalisme? Voilà.
Et donc, Dean Takahashi, il a publié une enquête sur Moon Studio qui révèle un management autoritaire et toxique. L'article, en fait, qui est basé sur de nombreux témoignages d'anciens employés, dresse le portrait d'un environnement de travail où l'intimidation et les abus verbaux sont monnaie courante. Sous les airs anti-système et télétravail friendly et organisation horizontale, le studio cache une culture de management profondément malsaine créée par ses deux cofondateurs, donc Thomas Mahler et Gennady Korol. Pourquoi j'ai dit que ça, en fait, le studio n'avait pas n'était pas allé nulle part, c'est parce que en fait c'est un studio 100% télétravail.
D'accord.
Et aussi bien pour les patrons que il y a pas de studio en fait.
Oui,
enfin, il n'y a pas de locaux.
Il n'y a pas de bâtiment. Ils ont une adresse, évidemment, parce que c'est la légalité, etc. Il faut bien exister en tant qu'entreprise, en tant que structure. Mais il n'y a personne qui va le matin chez Moon Studio.
C'est ça. En général, ils allument leur ordi et ils se débrouillent. Voilà. Et le truc, c'est que les témoignages des anciens employés sont vraiment accablants. On parle d'un environnement où les insultes et les humiliations sont quotidiennes. Les idées des développeurs sont rabaissées en public, qualifiées de merdiques, de nulles, de vomitives par Thomas Mahler. Certains se font traiter d'idiots devant tout le monde, notamment sur le Discord public, et le tout dans une ambiance prétendument détendue, en fait, où la vulgarité est érigée en norme et toute tentative de modération est considérée comme du politiquement correct qui n'a pas rien à faire dans un groupe qui n'est pas une entreprise, vu qu'on est tout simplement des passionnés et des copains.
Pas de politiquement correct dans mon jeu vidéo, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ouais, c'est d'accord. Ça. Ouais. Hein, donc évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de coin c'est devenu quoi? Eh ben, un boy club. Avec des propos sexistes, des propos racistes, des propos homophobes qui étaient tolérés et banalisés. Et clairement, en fait, selon les deux dirigeants, faire attention à ce qu'on dit, c'est devenir une entreprise classique. Mmh. Et en trahison avec leur esprit un peu rockstar et rebelle qu'ils ont.
Ok, donc en gros, c'est cette façon de faire qui leur avait garanti les succès.
Voilà.
C'est revenir un petit peu, c'est réécrire l'histoire de on a réussi parce que, alors que.
C'est exactement le même principe que, on est des punks. Hein.
Mm-hmm.
Voilà, non, vous êtes des connards. voilà. Le rejet, en fait, aussi de toute structure hiérarchique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un manager qui pourrait. Il n'y a pas plusieurs managers, plusieurs services qui pourraient justement se répondre entre eux et partager les responsabilités et permettre justement notamment une organisation plus cohérente des fonctions. Mais ce qui fait que globalement, il y a les deux fondateurs et tout le monde est au même niveau. Donc c'est-à-dire que quand les deux fondateurs poussent une gueulante, c'est chez eux, tu vois.
Ouais. On connaît la taille du studio, le nombre de personnes concernées.
Ça a été très variable. Mmh. Ça a été très variable. Ça est sur le premier Ori, justement sur le Ori et sur le deuxième, ça a varié entre 20 et 200 personnes.
Ah oui. Ok. Donc vraiment sur des coups de main ponctuels, des choses comme ça.
C'est ça. Ça a varié.
T'as un noyau et puis derrière. D'accord. Donc là, on reste toujours sur la même période, jusqu'en 2020-2022, les deux premiers Ori.
Pas de renseignements à partir de 2022 pour des raisons évidentes que maintenant, qu'après, il y a eu l'article VentureBeat et les informations étaient beaucoup plus rares et beaucoup plus difficiles à trouver à partir de ce moment-là.
Mmh. Mais c'est pas pour autant qu'il a arrêté de. Il a arrêté de s'exprimer.
Non. Mais juste pour rester, parce que j'ai encore des choses à dire sur cet article de 2022. Vous voyez, 2022, c'était il y a longtemps, mais oh.
Oui, vous savez.
Voilà.
On était jeunes, on commençait à peine cette émission.
Et notamment, en fait, le rejet de structures hiérarchiques, ça mène notamment à la surveillance. Thomas Mahler, un de ses trucs, c'était de surveiller les connexions de ses employés et qu'il leur demandait pourquoi ils ne travaillaient pas le week-end.
Après, moi, je le comprends.
Oui.
Ah, moi, je sais quelle réponse j'aurais donné, si tu veux. Bah, parce que c'est le week-end, connard. Mais voilà.
Et le truc, c'est qu'en plus, officiellement, il n'y a pas d'heure sup.
Ah.
Sauf que les délais et les objectifs étaient intenables et délirants. Mm-hmm. Ce qui fait que si tu veux tenir tes objectifs, tu es obligé de bosser le week-end.
Et d'ailleurs, c'est une vraie question dans le cadre d'une entreprise comme ça, complètement, j'ai envie de dire, dématérialisée, qui n'a pas d'existence physique, mais qui est quand même une existence juridique.
Oui.
Quelles sont les lois qui s'appliquent?
Eh ben, la
les
loi,
lois du la pays loi, où tu la, travailles, la loi du pays où existe l'entreprise.
La loi du pays où existe l'entreprise, ou en tout cas elle s'est enregistrée.
Okay.
Il y a un grand, tu sais, c'est un grand classique de, par exemple, les, il y a des gens qui travaillent en France et qui sont employés par des boîtes irlandaises au hasard.
Mmh, oui, je dis ça complètement au hasard. On est bien d'accord, dans le cas de l'informatique.
Au hasard.
C'est pas du tout.
Totalement au hasard.
Complètement.
Et ben leur contrat il est irlandais et et en fait toutes leurs et les lois dépendent de
la législation irlandaise.
En mode full télétravail.
Ok. Et du coup, dans le cas de Moon Studio,
pas été révélé.
Ok.
Ça n'a pas été révélé, ou en tout cas, quand j'ai essayé de regarder, ça ne voyait pas. Mm-hmm. Après, Moon Studio dit souvent qu'ils sont, enfin, ils rappellent souvent que ça, qu'ils ont justement un Israélien et un Autrichien. De ce que je comprends en termes de législation, le plus simple serait Israël.
D'accord.
Je ne dis pas que c'est le cas.
Mmh. Oui, on n'a pas vraiment de détails là-dessus.
J'ai pas de détails. Je sais qu'en termes de législation, en Israël, c'est beaucoup plus simple.
Le droit du travail, de façon générale.
Voilà.
Du coup, ça posait la question. En fait, tu parlais du fait qu'il n'y a pas d'heures sup,
voilà.
Il n'y a pas de, enfin, au niveau des horaires, des amplitudes horaires, le fait de tout ce qu'on
c'est
connaît,
ça.
Le droit à la déconnexion,
c'est
des choses
ça,
comme ça.
Parce
en fait,
que, par exemple, si ça avait été, par exemple, en Autriche, l'Autriche est en Union européenne, il y a des règles, même si elles sont pas drastiques en soi.
C'est pas le pire pays en tout cas européen.
Voilà. Mais il y a quand même, je pense, des règles à respecter. Il me semble que, de ce que j'en sais, en tout cas, alors, je suis pas un spécialiste du droit du travail
autrichien. On se demande bien ce que tu fais hein, pour préparer cette émission.
Israélien, non plus.
Non plus.
Mais par contre, je sais que vu le nombre d'entreprises de la tech qui se mettent là-bas en mode start-up, et c'est la folie, je pense qu'il y a, doit y avoir des facilités en termes de gestion, notamment pour du offshore, etc., qui sont évidentes. Après, je une fois de plus. Hein.
Ah oui, c'est de la supposition par
total
rapport aux
supposition,
éléments.
Total supposition, je vais pas commencer à partir là-dessus.
D'accord.
Il y a déjà bien largement à dire.
De quoi dire,
ouais. Il y a bien de quoi dire.
Donc les employés fliqués
voilà.
Sur leurs heures de week-end.
C'est ça. Et en plus, évidemment, le tout est justifié par un seul mot, la qualité.
Mm-hmm.
Bah oui, parce que pour que le voilà, le principe, c'est que pour que le jeu soit bon, tout est permis. L'abus devient un outil de production et quand la pression devient insoutenable, les employés s'en vont. Après par exemple après le premier ori, 70% des employés sont barrés.
C'est pas mal comme score.
Et le truc, c'est que la réputation du studio a permis de les remplacer très facilement. Ça et le soutien de l'éditeur principal du jeu,
mm-hmm.
Microsoft.
Et oui,
c'était un jeu first party Microsoft.
Ouais, c'est vrai. Le premier, les deux.
Oui,
d'accord.
Les deux.
Ok. Ok, ok.
Microsoft, justement, parlons-en. Parlons de Microsoft. L'article suggère qu'ils ont fermé les yeux, sachant que Moon n'ayant pas de locaux, il est difficile de rendre une visite dans les studios pour dire, dis donc, ils n'ont pas l'air bien, vos gens, là.
Oui, c'est normal, les chaînes et les fouets.
Voilà. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de studio. Enfin, il n'y a pas de locaux, une fois de plus. Donc, c'est plus difficile de voir. Et surtout... malheur aurait été maître dans l'art de masquer les dérives, notamment en fait en mettant par exemple vu que toutes les discussions étaient sur un Discord, il suffisait de masquer le bon Discord pour que tu vois pas
le bon chan ou ouais.
Voilà.
Ouais, les traces ouais, sont accessibles à
c'est
ceux
ça.
Qui ont le droit d'y avoir accès.
C'est ça. Mais finalement, après, ce qui a décidé Microsoft, c'est les retards, notamment. Le premier était déjà en retard, le deuxième a cumulé les retards. Je ne sais pas si tu te souviens, le deuxième a eu quand même 2 ans de retard.
Ori
and the Will and the Wisp devait sortir en 2018, il est sorti en 2020.
D'accord.
Moi, ça ne m'a pas dérangé vu la qualité du jeu au final.
Et puis parce qu'on commence à être habitué actuellement.
Voilà,
enfin, c'est pas forcément quelque chose. On n'est pas en mode vite, on veut que le jeu y sorte.
Oui, et puis Microsoft. Enfin, et puis à l'époque, Microsoft n'avait pas forcément la même patience et surtout le même recul par rapport à l'industrie qui, en 2018-2020 qu'il a maintenant où il connaît un peu mieux sa position. Qui s'appuie beaucoup plus sur son Game Pass et sur ce qu'il a envie de faire dans le jeu vidéo, où il est beaucoup moins, entre guillemets, ultra pressé.
Oui, ils ont, ils ont changé leur approche,
ils ont beaucoup changé leur approche ces derniers temps.
Orienté vers la Xbox,
voilà,
la mettre en avant et ce genre de choses, ça c'est quasi fini aujourd'hui.
C'est-à-dire que maintenant qu'ils ont pris Activision, c'est plus dans l'intérêt de faire du flux, exactement comme Call of Duty fait du flux et le Game Pass fait du flux, plutôt que se dire vite, il faut que ça sorte aujourd'hui, tu vois.
Oui, bien sûr.
Et entre temps, il y a eu Starfield, quoi. C'est-à-dire que entre autres échecs. Enfin, Starfield.
Oui, mais...
Starfield et en plus, je suis méchant avec Starfield parce que Starfield, c'est un échec plutôt symbolique, plus que financier, tu vois.
Oui.
Mais tu vois plutôt la symbolique. Il y a eu d'autres échecs les uns après les autres. Le jeu d'Arkane, notamment, dont je les appelle le nom. Redfall, voilà.
Oui, t'as ça, tu as des décisions prises dans les studios qui géraient de façon globale. Tu as le terme de échec qui a été prononcé pour Diablo 4, alors qu'à la sortie, ils en vendaient des millions. Et quelques semaines plus tard, il n'y a plus personne qui y jouait, donc bon, il a été considéré que, bref.
Donc c'est pour ça, on va dire que depuis, je pense qu'il y a un certain recul de la filière Xbox et de Microsoft.
Oui, ils ont changé leur approche.
Et qui à l'époque n'avait pas encore viré 1900 personnes.
Ils en ont viré combien il y a 2-3 jours? Microsoft, ils ont viré 7-3% je crois de leurs effectifs.
J'allais dire, pas tant.
C'est plusieurs milliers de personnes.
Non, c'est pas, ils n'ont pas viré 1000 d'un coup, je crois.
Hein. Il faudrait que je retrouve, mais.
Ils en ont viré un petit paquet, il me semble encore.
Oui, hein. Et dont une partie, effectivement, dans de la division jeux vidéo.
Oui, il y avait une partie, notamment chez. Les gens qui. Chez Respawn.
Ah.
Attends.
Chez Respawn. Non, Respawn
c'est Yé. Je confonds avec chez Yé. Chez Yez, ils ont viré plein de gens, pour le coup, et avec chez Respawn, ils en ont viré pas mal chez Respawn. Respawn qui est responsable notamment des Jedi.
Des jeux Star Wars.
Et Jedi Survivor. Donc, finalement, Microsoft a fini face par rapport donc, au retard du deuxième, donc de Will of the Wisp, et face justement à des tensions croissantes entre. Microsoft et Thomas Mahler qui justement faisait que cacher ce qui allait pas, et ça a fini par définitivement gonfler Microsoft, qui a dit votre prochain jeu vous le faites tout seul, nous on finance pas. À l'époque, Boon Studio était en mode rien à foutre, on a des super gens qui vont nous financer tout ça, vu que c'est Private Division étant un label d'édition qui appartient à Take-Two. Take-Two, si vous ne savez pas qui c'est, Take-Two, c'est les jeux NBA, donc c'est déjà beaucoup d'argent, mais c'est surtout Rockstar, donc c'est les GTA, donc c'est des camions de billets. Okay.
Et quand ils ont envie de rajouter un petit peu de camions de billets par-dessus, ils sortent des Red Dead Redemption.
Voilà,
ils sortent des jeux de cette ampleur, cette portée.
Donc, en gros, ils se sont dit, ok, Microsoft n'est pas là, c'est pas grave. Derrière nous, il y a Private Division qui est porté par une des boîtes les plus riches du monde dans le jeu vidéo.
Ou tout court.
Ça va bien se passer. D'accord, ça va bien se passer. Alors, ça, c'est tout ce qu'il y avait dans l'article de 2022.
Ok.
À cela, le studio avait répondu à l'époque. Il avait répondu en deux points. Le premier point, c'est pour les accusations de racisme, écoute, le studio est fondé par un Autrichien, un Juif israélien, donc on ne peut pas être raciste. Et de toute façon, vu nos origines, on a le droit de faire des plein de blagues sur la Shoah. Si nous, ça ne nous choque pas, ça devrait choquer personne.
D'accord. Alors après, c'est peut-être... Enfin, s'il y a des accusations de racisme, ça ne concernait pas forcément uniquement l'antisémitisme, mais...
J'ai, une fois de plus, j'ai dit la réponse. Réponse était censée ou quoi que ce soit. J'ai dit que c'est la première partie de la réponse.
D'accord.
La deuxième partie de la réponse étant, on s'excuse si on a heurté des gens, mais vu la qualité du résultat final, ça valait le coup d'avoir un management brutal.
Tu sais à qui ça me fait penser ? À Julien Chiez, qui avait justifié le crunch pour Red Dead Redemption 2 par la qualité du résultat.
C'est ça. Et ben, c'est exactement. On est sur ce même type.
On est dans cette ambiance.
Et puis, c'est marrant de voir ce qui est devenu Chiez depuis, en termes de discours.
Bah, il peut discuter avec Mahler.
Très Thomas Mahler.
Ah ouais, ils ont des choses à dire.
Très Thomas Mahler.
J'ai quelque chose à vous dire. Non, ils ont des trucs à se dire entre
eux. Ah putain. Ben, pour le coup, Chiez, il a intérêt à apprendre l'allemand. Forcément, une réponse. qui a été accueilli de façon assez mitigée par la communauté. Alors, niveau grand public, ça n'a pas trop heurté l'image de Moon Studio. Pourquoi ? Parce que personne ne lit Venture Beats. Ça reste un petit journal.
Ori, qui a cette réputation, voilà, que tu disais tout à l'heure.
Ori, même si c'est un million de sellers et que ça marche plutôt bien, reste... C'est pas un énorme jeu. Ok. L'affaire n'a été loin d'avoir détruit la réputation du studio en soi.
Comment ça, la cancel culture, ça marche pas?
Alors, on va en parler de la cancel culture si tu veux, mais on va en parler plus tard. Mais en gros, à part ça, la réponse, en fait, elle a déclenché une déferlante de témoignages sur les réseaux sociaux de gens qui ont passé 3, 4, 5 ans au sein du studio et qui en parlent comme le pire endroit dans lequel ils ont eu l'occasion de travailler.
Pas mal. Voilà. Pas mal. Non, c'est pas donné à tout le monde de cumuler autant de...
C'est ça. Donc ça, c'était en 2022.
Ok.
Depuis 2022, Moon Studio, on a hérité deux choses. La première chose, c'est on va arrêter de faire des jeux mignons, vu que de toute façon, on est des bâtards, donc autant qu'on...
Puisque c'est comme ça.
Et le deux, c'est Thomas Mahler, qui était un rebelle, est devenu farouchement anti-média et... comme il le dit, on va dire poliment anticonformiste, pour pas dire devenu un sale con.
C'est quoi ? C'est un martyr de la liberté d'expression ?
C'est ça.
Oui, voilà.
Exactement. Donc, par la suite, Moon Studio d'abord a annoncé un jeu qui s'appelle No Rest for the Wicked, donc chez Private Division, et l'a lancé en accès anticipé en avril 2024, dans un univers beaucoup plus sombre que celui d'Ori. Dès qu'on a vu les images, on a reconnu la patte graphique
la qualité visuelle,
etc., mais quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus ambitieux, déjà avec des personnages humanoïdes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Entre-temps, justement, il y a For the Wicked.
Oui.
Est-ce que ça t'intéresse ?
Je t'écoute.
Thomas Mahler a eu une altercation particulièrement violente avec certains des membres de l'équipe de ce nouveau projet, No Rest for the Wicked, parce qu'il souhaitait une scène où le personnage principal féminin de l'histoire serait violé.
D'accord.
Voilà, cette scène de viol était censée motiver ce gentil personnage à commettre des actes badass.
Oui, à devenir violent par vengeance. Quoi.
Voilà, c'est ça. Un bon vieux revenge porn à l'ancienne.
Ouais. Et bizarrement, tout le monde n'était pas chaud.
Les développeurs, ils ont résisté, affirmant qu'ils ne pouvaient pas intégrer une telle scène dans un jeu vidéo sans une réelle intention scénaristique. Autre que, il faut que le personnage ait envie de se venger. Il peut se venger de plein d'autres choses. Il peut se venger de la mort de quelqu'un.
Pour plein de raisons différentes.
Pour plein de raisons différentes. Le viol n'est pas obligatoire. Thomas Mahler a insisté pendant plusieurs semaines, affirmant qu'il voulait quelque chose d'edgy et audacieux. Il a fallu encore un mois de plus pour le convaincre que c'était une mauvaise idée pour une intrigue de jeu vidéo, là où l'objectif était de fournir au personnage une motivation pour se venger.
D'accord. Parce que oui, mais en fait, c'est surtout sa motivation à lui. D'orienter ça vers un côté edgy, on fait pas comme les autres, etc.
C'est
ce qui me dérange le plus dans l'histoire. C'est pas le côté de
raconter une histoire où il y a un viol, c'est pas un problème en soi, c'est pourquoi.
Voilà.
C'est comme tout. La raison, c'est il faut juste que la personne soit pas contente et envie de se faire du mal. Et il s'est dit, le pire qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de se faire violer. D'accord, donc c'est gratos en fait.
En tout cas, c'est comme ça qu'on peut effectivement l'interpréter.
Parce que c'est pas, il va pas parler de quelque chose qu'il a vécu.
Oui.
Il va pas parler d'une expérience féminine parce que.
Il est pas féminin.
Et puis surtout, il a l'air d'en avoir strictement rien à branler, comme on va le voir après, de l'expérience féminine. Donc, c'est pas. Ça a dû être compliqué. En tout cas, entre 2022 et 2024. Et voire jusqu'à maintenant, Thomas Mahler a multiplié les communications tapageuses. On pense notamment aux déclarations sans réel fondement, comme quand il a affirmé que tous les AAA devraient passer par des phases d'accès anticipé.
Oui, je me souviens qu'on avait vu ça en mode, mais il découvre ça en 2022, ouais, 2023.
Et surtout, il a dit ça. Tous devraient le faire.
Oui, c'est ça.
Alors que l'accès
anticipé existe depuis 2013-2014, dans ces eaux-là à peu près. Mm-hmm. Et ça a des avantages, ça a des inconvénients, c'est un système qui a ses réacteurs, qui a les gens pour qui ça a très bien marché.
Et des fois, ça a été des catastrophes.
Complètement, il y a des catastrophes, mais comme de très très belles réussites. Baldur's Gate 3 est passé en early access pendant 3 ans.
Et des fois, des belles arnaques. Je rappelle que Ark est encore en accès anticipé officiellement, je crois.
Hein. Bien sûr.
Le premier Ark, c'est ça. Et il y en a un deuxième qui est en accès anticipé,
parce que ce serait dommage. Parce que bon, tant que je gagne, je joue. Voilà, mais effectivement, l'accès anticipé, en tout cas, en tant que consommateur, on avait déjà fait un peu le tour. On a vu les intérêts, les dangers, on sait ce que c'est, que lui, il le découvre en 2024
Et puis surtout, arrive avec ses gros sabots pour dire juste de façon très arbitraire, tous les AAA devraient faire ça. Ça n'a aucun sens, mais bon.
Effectivement, lui, c'est la première fois qu'il le fait.
Oui, mais surtout, il y a un côté
déconnecté de la réalité et du monde dans lequel il vit.
Et je pense que le gars est assez malin pour savoir que en disant une bêtise pareille ou un truc aussi gros, il va faire parler de lui. Mm-hmm. Et on pense aussi, et en fait, surtout, il l'avait dit dans un post en allemand déjà.
D'accord.
Et ça s'est su notamment grâce à un article de Eurogamer à l'époque. Et le truc, c'est que Thomas Mahler, après, il a passé sa vie, en fait, à faire des clins d'œil au mouvement masculiniste et au Gamergate, ce mouvement de joueurs opposés à l'inclusivité qui se traduit par un harcèlement des studios qui mettraient des personnages racisés ou LGBT dans leurs jeux. Mais tout ça, en fait, et c'était un débit constant.
Mmh, mais en allemand.
Mais en allemand, donc tout le monde. Mais du coup, à part et les germanophones globalement, à part en Allemagne et en Autriche globalement, il y en a pas quoi.
Et ils sont pas forcément lus par la presse, on va dire internationale, qui fonctionne en anglais principalement, voire dans certaines langues en Asie locale, etc. Ouais. Où il y a relativement peu de porosité aussi. Mais oui, du coup, c'était rester plus ou moins discret.
Voilà, et le truc, bon, il se trouve que sans être ultra germanophone, je comprends l'allemand, mm-hmm. et que j'avais un peu suivi l'affaire, et pour le coup, Romain peut en témoigner, souvent, je disais, Thomas Mahler a encore écrit un truc, ça me rend dingue.
Oui, c'est ça.
Et un jour, va falloir qu'on fasse un truc.
Et ben, ce jour est arrivé.
Voilà, parce que c'est pas possible. Et ça a culminé, en fait, en mai 2024. Note, mai 2024, c'est un mois après la sortie en accès anticipé de son jeu No Rest for the Wicked. Où, en fait, il a volé au secours d'un utilisateur de Steam qui estimait légitime de poser la question de point ouvrir guillemets. Est-ce que Hades 2 est un jeu woke vu qu'il y a un dieu en chaise roulante et un autre qui n'est pas caucasien?
D'accord, donc c'est quelqu'un qui n'a pas joué à Hades 1, on est d'accord.
Il a adoré Hades 1, mais il n'était pas sûr de jouer à Hades 2 parce qu'il avait peur que ce soit woke. Alors, je pense qu'il est aveugle. Je ne sais pas, j'arrive pas à dire.
On lui parle qu'il y a des relations homosexuelles dans Hades 1.
Faut pas lui parler d'Achille et de Patrocle, hein, vraiment.
Même pas que. Les Agrius et... Bref, je ne vais pas spoiler, mais il se passe des trucs. Il se passe des trucs.
Il se passe vraiment des trucs. Enfin, la Grèce antique. Bref.
Oui, bah, en plus.
Voilà quoi.
Bon.
Et que tous les personnages sont ultra sexualisés, ils sont horny as fuck.
Mais
donc,
oui,
voilà.
Mais ça fait partie de. Enfin bref, c'est le propos.
Bref. Après, une fois de plus, il y a la bonne sexualisation et la mauvaise sexualisation. Stellar Blade, bonne sexualisation. Homosexuel, mauvaise sexualisation.
On va en reparler dans pas longtemps de Stellar Blade parce qu'il arrive sur Steam. On n'a pas fini de rigoler.
Ça va être bien.
Qu'est-ce que tu dis, Thomas Mahler a pris la défense de ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a dit?
Oui, en fait, c'est parce qu'il y a un journaliste allemand qui a pris ce poste-là en disant calmez-vous avec vos accusations, avec vos trucs de wokisme et tout ça. Jouez au jeu, jugez par vous-même, arrêtez de faire de la pensée préconçue. Et donc Thomas Müller.
Ça, c'est pas le même. Il met moins de buts et il est moins autrichien.
Il a su se rendre détestable, mais d'une autre manière.
Pas pour les mêmes raisons et pas pour les mêmes clubs.
D'un point de vue uniquement footballistique, on est bien d'accord. Mais...
On arrête tout de suite la digression. Thomas Müller, qu'est-ce qu'il a dit sur.
Thomas Mahler, il est venu fustiger donc le journaliste d'abord, avec un long poste Il a dit qu'il fallait arrêter avec la cancel culture, parce qu'apparemment ça existe et que ça marche.
Mais surtout le rapport avec la discussion en cours. Pardon.
Que il fustige aussi l'agenda politique de Hollywood et des éditeurs de jeux vidéo.
D'accord.
Donc qui est toujours le wokisme.
Hein. Oui, oui, oui.
Voilà. Et il décrivait à la fin l'inclusivité comme une forme de fascisme intellectuel. Et il en termine le bingo en se décrivant comme apolitique.
Évidemment.
Parce que sinon, quand même.
Parce que sinon, c'est pas drôle.
Voilà. Et il a terminé son bingo là-dessus. Et le truc, d'abord, il a écrit en allemand.
Mm-hmm.
Et après, il s'est dit.
Ce sera pas assez lu.
On va écrire tout ça en anglais.
Parfait.
Et là, bonjour Gamergate 2.0. Ah, il était là. Et là, un nouveau. Il s'est fait une nouvelle réputation, quoi.
Oui, 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 c'est. Ben...
On va dire qu'il a été connu à l'international grâce à ça.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que, en gros, les saveurs savaient, les sacheurs sachaient, oui. On va dire.
Maintenant, c'est difficile de l'ignorer.
Maintenant, on peut pas l'ignorer, quoi. Voilà. Et enfin, c'était donc le sandwich à la merde. Hein,
mmh. Oui, parce que du coup, c'était le début, mais c'est pas voilà. La première, voilà. La seule. Il s'est pas arrêté là.
On rappellera à toute fin utile que, en fait, personne se définit comme woke. C'est un mot utilisé par l'extrême droite pour qualifier des gens qui veulent disqualifier, tout simplement.
Parce qu'en gros, ils mettent dedans ce qu'ils n'aiment pas.
Voilà.
Je pense que c'est bien résumé.
C'est ça. Il n'y a personne qui se définit comme woke. Point. Tu vois, c'est juste un mot pour disqualifier.
Aujourd'hui, en tout cas, c'est peut-être que ça avait un sens à un moment et que ça a servi du coup comme excuse, comme cible, que ça a été récupéré dans l'autre sens. Fin.
C'est ça. C'est juste un mot qui est utilisé pour disqualifier la tolérance, tout simplement. En novembre, juste je termine en disant qu'en novembre 2024, il y a eu un petit accro dans la belle machine Moon Studio.
D'accord.
Parce que vous vous souvenez, je parlais de Private Division qui appartient à Take-Two.
Oui.
Et ben, Private Division, Take-Two vend Private Division à un fonds d'investissement qui s'empresse de virer tout le monde.
Oui, oui.
Voilà.
On se souvient de Kerbal Space Program, hein, qui est une des principales victimes de ça, enfin le 2
c'est
en
ça.
Tout cas.
Oui, voilà. Et on se souvient aussi que officiellement le catalogue a été repris par des anciens d'Annapurna qui aussi faisaient tous se faire virer. Enfin, pardon, qui étaient tous partis très volontairement avec un coup de pied au cul.
Oui, oui, voilà.
Voilà. Mais le truc, c'est qu'on sait rien en fait de cette nouvelle entité et on sait pas non plus si No Rest for the Wicked fait partie des jeux qui sont gérés par cette nouvelle entité possédée par ce fonds d'investissement.
D'accord.
Au vu des derniers atermoiements de Monsieur Malheur, je me risquerais à dire non, ce n'est pas le cas.
Parce que aujourd'hui, officiellement, si tu regardes, si tu prends
c'est
des infos,
c'est Moon Studio, qui développe et qui édite.
Ok, donc d'une certaine façon, il serait passé complètement indépendant, quoi,
Ça veut dire que, par exemple, là, il financerait le développement uniquement sur leur fonds propre, qui viendrait donc de ce qu'ils avaient gagné avec les deux premiers, sachant que ce qu'ils ont gagné avec les deux premiers, forcément, la majeure partie revient à Microsoft, et de la vente des accès anticipés.
Qui maintenant donc leur reviennent, enfin en tout cas viennent financer finalement la continuité du produit. C'est la logique de l'Early Access.
Et pareil, il faudrait savoir à quel point, par exemple, je pense à pas mal de. Alessandra notamment qui a des produits dérivés de Ori.
Mm-hmm.
Je sais pas à qui revient la thune. En général, en termes d'édition, c'est plutôt à l'éditeur que ça revient.
Ben oui.
En général, mais il faut voir quel deal ça. Hein. On se souvient tous du fameux deal de George Lucas par rapport à Star Wars, où il dit vas-y, je vous file tous les droits que vous voulez, par contre, les jouets, c'est à moi.
C'était pas la pire des décisions.
Voilà. Donc, bon, après, je sais pas. Je sais pas ce qu'il en est. Donc, je sais pas d'où vient la thune.
Ok.
Mais actuellement, en tout cas, il est en solo.
En autonomie.
Il serait en autonomie. Mmh. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé entre la semaine dernière et ce début de semaine ?
Eh ben, ça a été assez confus, très honnêtement. On a vu passer effectivement les premières infos. En fait, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est en début de semaine. si j'ai pas, enfin, je crois bien que c'est en début de semaine, qui a eu sur, en fait, Thomas Mellard, il a fait des déclarations sur le Discord de No Rest for the Wicked ou de Moon Studio, je sais plus lequel des deux. Enfin,
d'accord.
Il a fait des déclarations relativement inquiétantes pour les joueurs et pour le studio en général, en fait, pour les suiveurs du projet, puisqu'il a dit, en fait, je résume très très vite, il a dit que les critiques négatives qui affluaient depuis un temps relativement court, en fait sur une période relativement courte, là très récemment, pourraient entraîner la fermeture du studio.
Pardon, excusez-moi. Alors, c'est parce que je connais la fin de l'histoire. Non.
Exactement, il a dit, il est entièrement possible que nous ne serons plus là dans quelques mois, simplement parce que nous sommes en train d'être review bombés. Le review bombing, on va en reparler. Ce qui entraîne les gens à, enfin, ce qui empêche les gens d'acheter le jeu, en fait, quand tu vois effectivement qu'un jeu a des évaluations négatives, tu es moins enclin à l'acheter que si les retours autour du jeu sont dithyrambiques, évidemment. Et donc, il avait dit ensuite, ce qui veut dire que donc, si on gagne plus d'argent avec les ventes du jeu, ben, on sera obligé de fermer. Si vous voulez nous voir finir le jeu, encore une fois, l'accès anticipé, c'est proposer une version qui n'est pas encore définitive du jeu, et que l'acheter, et que participer au financement et donc à son développement, pour qu'il aille au bout du projet. Si vous voulez nous voir finir le jeu, il est important que nous fassions remonter ce score d'évaluation. Et je ne suis pas sûr qu'il disait des trucs du genre, je ne suis pas sûr que les gens comprennent qu'ils participent à la potentielle mort, au potentiel meurtre du studio avec ces reviews négatives. On a encore quelques mois à bosser sur le jeu. Le jeu n'est pas terminé, il nous reste encore du travail. Mais si on ne vend plus de copies à cause de ce review bombing, ça causera peut-être la mort du studio. Voilà ce qu'il a dit en substance, je traduis ça vite fait, hein, c'est globalement ce qu'il a déclaré sur le Discord.
C'était en anglais, hein.
C'était en anglais.
À noter que quasiment depuis 2024, ses communications, il les fait que en anglais désormais.
Alors, la question, en fait, il parle du fait que récemment, les reviews étaient, on va dire, penchaient plus du côté négatif.
Ça, pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire que je suis allé voir,
oui.
Et effectivement, les dernières reviews étaient pas bonnes.
Ce qu'on peut voir sur Steam, effectivement, c'est il y a deux informations sur les évaluations actuellement. Tu as l'évaluation globale depuis que le jeu est disponible, et
qui était, je me semble, positive.
Oui, je crois que très positive.
C'était positive, voire très positive, ouais. Et l'autre qui était plutôt, c'était moyenne.
C'était moyenne, mais c'est parce que c'est les plus récentes. Et les plus récentes,
les 30 derniers jours, c'était moyenne.
30 derniers jours, et en fait, ça fait suite à la publication d'une mise à jour. Encore une fois, le jeu en cours de développement, ils rajoutent du contenu, ils font évoluer le projet régulièrement. Ils font donc régulièrement des mises à jour. Une mise à jour récente, donc qui s'appelle The Breach, qui avait reçu donc des critiques négatives, par rapport à basé globalement sur des problèmes de gameplay, des bugs et des frustrations sur le contenu, en tout cas ce que ça faisait, ce que ça changeait dans le jeu. Mais encore une fois, voilà, c'est simplement les avis, et j'ai envie de dire c'est malheureusement le jeu de proposer ton jeu effectivement en early access, c'est aussi que les gens ont la possibilité de dire si ça leur convient ou pas. Ça peut être un vrai sujet en soi, le fonctionnement même des évaluations sur Steam. Mais dans le cas présent, globalement, si tu regardes un petit peu les motivations qui vont derrière ces reviews négatives,
c'est trop dur, c'est mal équilibré.
Voilà, c'est pour ça.
C'est ce que j'ai lu en regardant rapidement. C'était mal équilibré.
C'est ça, des problèmes de gameplay.
C'est trop dur.
C'est pour ça que,
le fait que la mise à jour déséquilibrait totalement un jeu qui l'était auparavant très bien.
C'est ça. Donc les reproches sont vraiment sur le jeu, le contenu, et pas du tout sur des attaques personnelles envers qui que ce soit.
Alors pourquoi c'est pas du review bombing selon toi ?
Alors parce que justement, c'est un peu qu'on le définit, j'ai envie de dire. On redéfinit de façon générale le review bombing comme une campagne organisée, orchestrée et coordonnée pour déprécier, finalement, donner des reviews négatives à un produit, que ce soit sur Steam, que ce soit sur Metacritic, que ce soit sur différents formats, finalement, de reviews, pour bah voilà, attaquer le jeu sur des raisons qui ne sont pas liées à la qualité du jeu.
Des fois, ça marche, comme sur Forsaken, par exemple.
Forspoken ?
Forspoken, pardon.
Ça avait...
Ah ben, tu regardes les reviews du machin, c'est tendu, les notes. Hein.
Oui, oui, oui.
Et des fois, et le résultat s'en est senti. Et puis, oui. Des fois, ça marche moins bien. Coucou Shadows.
Ils ont essayé. Bah non.
Ils ont essayé.
Non. En vrai, non. Je peux te ressortir des chiffres. Non, il n'y a pas de campagne qui est significative sur le nombre de reviews. Sur Assassin's Creed Shadows, ça n'a absolument pas marché. La campagne, elle a été médiatique.
C'est pour ça que
j'étais... Il y a des gens qui ont parlé, mais il n'y a pas eu de review bombing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gens qui sont allés de façon significative pour faire évoluer les notes.
Ah oui, mais là-dessus. C'est pour ça que je dis que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que il y a, pour le coup, tu peux voir sur Reddit des gens qui se sont organisés pour review bomber et ça n'a pas marché.
Oui, d'accord.
Parce que le jeu était beaucoup trop plébiscité par les gens qui y jouaient.
Oui. Je comprends la différence, effectivement. Même si,
pour moi, c'est comme il y a des boycotts qui fonctionnent et des boycotts qui ne fonctionnent pas. C'est un boycott où il n'y a pas assez de monde qui participe, ça reste un boycott.
Ça ne remet pas en cause, d'ailleurs, la légitimité ou non du boycott.
Mais c'est
un peu la même logique.
Pour moi, c'est pareil.
Je comprends la logique. Dans le cas de No Rest for the Wicked, c'est très difficile, en fait, de faire un lien avec ça, avec une éventuelle attaque personnel direct lié, ou en tout cas dirigé contre Thomas Mellor ou son travail. Mais c'est précisément sous cet angle-là qu'il l'a présenté. En fait.
En tout cas, qu'il l'a sous-entendu.
Oui, globalement.
Parce que, en fait, quand tu dis review, en fait, et après, j'imagine qu'il sera tout heureux de discuter sémantique pour dire c'est quoi un review bombing et c'est quoi ce qui n'est pas un review bombing.
Il a dit clairement qu'il a affirmé que certains utilisateurs achetaient le jeu, laissaient une critique négative sans contenu pertinent et se faisaient rembourser, ce qui affectait la note. Alors, PC Gamer, ils ont enquêté sur le sujet, donc j'ai trouvé deux articles plutôt bien fournis à ce niveau-là. Ils ont enquêté, ils ont trouvé que seulement 4,3% des critiques négatives récentes étaient associées à un remboursement.
Eh ben.
Suggérant que Thomas Mellor pourrait exagérer le rôle des remboursements. 4,3% des reviews négatives récentes.
Ah ouais, donc c'est vraiment...
Donc on est vraiment sur pas grand-chose en termes de quantité. Et sans forcément que ça ait un lien avec une éventuelle campagne de ce genre. Tu peux très bien avoir financé le jeu, etc., et puis te rendre compte que le contenu, finalement, avec cette nouvelle mise à jour, ça ne va pas dans une direction qui te convient, du coup, tu demandes un remboursement. Il n'y a aucune... tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas forcément de lien. Évidemment, tu peux te dire « Ok, c'est lié à ça, parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça. » Mais tu peux forcément automatiquement dire que les 4,3% ont fait ça dans ce sens-là.
Et vu le pédigré de Thomas Mellor, le 4,3% doit se retrouver sur à peu près toute la campagne globale, parce que c'est un personnage, comment dire poliment, clivant.
Voilà. Et derrière, évidemment, il s'est lâché pas seulement sur le Discord, pas seulement sur le Discord interne, il s'est lâché sur Twitter, parce qu'on ne dira jamais X. Tant pis pour toi, Elon. Mais donc, il a fait des commentaires controversés, on va dire ça comme ça, associant les critiques négatives à des personnes le traitant de nazi. En gros, il a dit... aujourd'hui, ces jours-ci, dans l'univers dans lequel on vit actuellement, on va le préciser comme ça, apparemment, n'importe qui n'inclut pas au moins 5 personnages trans dans leur jeu et qui ne laisse pas leur jeu influencé par du political bullshit, je sais pas comment tu veux le traduire.
Non, mais il s'en fiche, lui, il est apolitique.
Et du coup, toute personne qui ne fait pas tout ça est un nazi.
Oui, il a dit ça. Hein. Non, mais le sens de la nuance et de la mesure.
Voilà. What a world we live in.
Et puis
dans quel monde vivons-nous ?
Pour le coup, on est sur la lignée victimaire assez classique des gens, en fait, qui sont dans un courant dominant et qui perpétuent, en fait, le fait d'être des martyrs alors qu'ils sont dans le courant dominant.
Et du coup, alors ça, c'était au milieu d'un certain nombre de déclarations. Au milieu de tout ça, il en a profité pour rappeler qu'il était neutre, que le studio, c'est-à-dire qu'il a quand même engagé. Le studio dans une certaine neutralité qui ne veut pas choisir de camp dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà, tu vois, il en a profité pour glisser ça au passage. Ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit qu'il est en train de dire, mais il a préféré
Personne ne te demandait ton avis.
Non, mais au moins, il y a une certaine cohérence. Globalement, quand tu vas quand tu vas gratter vers au bout vers la droite, au bout de la droite là-bas, tu finis par retrouver toujours un peu les mêmes.
Oh bah tu sais, hein, c'est les mêmes qui vont te dire oui, non mais de toute façon regarde, les nazis sont du côté de l'Ukraine aussi, donc bon.
Et du coup, donc il a terminé.
Et pour Israël-Palestine, il est où lui? Non mais vu qu'il donne son avis sur géopolitique sur des trucs.
C'est une bonne question. Mais il s'est pas ressorti
Et surtout, qu'en dit le cofondateur?
Et non plus. Et c'est vrai que c'est une remarque qu'on aurait pu faire dans toute la présentation que tu nous as faite.
Il est absolument muet. La seule fois où il a parlé, c'était pendant la réponse à l'article de VentureBeats. Mm-hmm. Et c'est lui qui était clairement le plus mesuré des deux.
C'est pas forcément étonnant. Et d'ailleurs, je pense que il évite de s'approcher plus que ça de ça, quoi. Enfin. Toujours est-il que après donc parce que cette histoire présentée sur Discord,
je trouve qu'il y a un petit côté Carmack Romero dans cette histoire.
Après avoir présenté tout ça sur Discord puis ensuite sur Twitter, les médias l'ont rapporté. On a eu des articles qui présentaient, enfin qui venaient un petit peu alarmistes sur le sujet. Et du coup ensuite il est revenu très clairement sur tout ça. Il est revenu.
Je me souviens de l'article de Kotaku notamment.
Ouais. Ouais, il a, et en fait, il a dit tout simplement que c'est pas ce qu'il avait dit. D'une certaine façon, il l'a
mais
dit.
Mais c'est écrit, tu l'as écrit, mec.
Oui, mais c'est un peu facile de s'appuyer sur les faits, monsieur. Mais voilà, donc il a dit ensuite que ses propos sur Discord étaient une indication de, enfin, comment? De dangers financiers immédiats, mais qui sont pas réellement finalement dans une menace immédiate de faillite, qu'il préférait, qu'il voulait justement s'attaquer aux reviews qu'il considérait comme pas légitimes et pas en tout cas pas constructives.
Elles sont pas constructives parce qu'elles sont juste négatives sur des points valides.
C'est sa façon de le dire.
Bien sûr.
Et sa rétractation ultérieure sur ses propos et même sur la réalité de l'état financier du studio, c'est très clairement considéré par les médias qui sont intéressés au truc comme une tentative de sauver la face.
Pompier pyromane.
Voilà. Donc il a fait effectivement ces déclarations alarmantes sur Discord avant de nier sur Twitter que le studio était en danger financier immédiat, même si comme tu l'as rappelé, effectivement ils sont en totale liberté, mais également sans parachute financier sur la suite du studio.
Après il est impossible de connaître l'état financier, comme je te dis, il y a beaucoup de justement on ne connaît pas le contrat qu'il y avait entre Microsoft et Ori, comment ça marche au niveau des droits. Est-ce que actuellement, par exemple, sur les Ori qui sont vendus aujourd'hui, est-ce que Moon Studio en touche des royalties? On n'en sait rien du tout. On ne sait rien. Parce que,
les jeux continuent à se vendre.
Quand Microsoft s'est retiré, on ne sait pas du tout justement ce qu'il en est de l'IP. On sait que Thomas Mahler, à un moment, a parlé de faire un nouvel Ori.
Et il l'a dit un peu de temps après certaines déclarations de Microsoft. Donc je pense qu'il y a encore un lien. Et je pense que Microsoft possède encore des droits sur la propriété intellectuelle.
Est-ce que, exactement comme je dis n'importe quoi, comme Square Enix à l'époque, ils prennent l'IP, ils peuvent le faire par qui ils veulent?
Je ne serais pas étonné. Et que lui, effectivement, avait dit...
Veuille se placer en mode...
À l'époque, il avait dit très clairement, moi, je suis intéressé, je suis toujours chaud pour refaire des trucs sur Rory, mais on a des années encore de boulot devant nous sur No Rest of the Wicked.
Donc, il n'y a rien qui a été déclaré sur à qui ça appartient, et je pense que...
Non, mais ça faisait suite, quand même à des déclarations de Microsoft.
Et de façon formaline, évidemment, il en a... il a surtout pas dit s'il avait l'IP ou s'il ne l'avait pas.
Tout à fait.
Notamment par rapport à... potentiels investisseurs.
Aussi, j'imagine. Oui. Mais du coup, voilà, la situation donc assez confuse et contradictoire, très clairement, entre ses propres déclarations. On peut s'imaginer qu'effectivement, ça c'est un fait, comme tu le rappelais, les évaluations donc sont passées pendant un temps à moyenne, voire brillante, plutôt négative pendant très peu de temps sur les critiques récentes. Mm-hmm. Donc il y a eu réellement effectivement un événement qui l'a poussé à réagir. Il a réagi à la Thomas Mahler.
Oui.
Hein, sans forcément de surprise à ce niveau-là.
Voilà, c'est-à-dire en étant extrêmement tapageur, en ayant des paroles, soi-disant, en se posant victime face aux méchants wokisme qui et à la cancel culture qui n'existe pas, ou en tout cas si elles existent, eh ben faudra montrer leur efficacité. Je rappelle que Darmanin est encore ministre. Par exemple,
je pense que très clairement il avait aussi l'intention de remettre un petit peu, de retirer un petit peu la couverture médiatique sur le projecteur médiatique sur le studio et sur le jeu. Parce que globalement, bon, bah, le jeu n'a pas l'air non plus inintéressant. C'est, on reparle de ce que tu disais sur l'œuvre et l'artiste. Mais...
Le jeu a l'air justement d'être un Souls-like, mais en vue plutôt isométrique.
Ouais.
Il n'a pas l'air inintéressant en soi. Par contre, il ne reçoit pas l'accueil dithyrambique, je pense, attendu.
Et je pense que c'est lié à son statut d'early access. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout dedans, il n'est pas fini, il manque des trucs, il est en cours de travail.
Ouais, mais il doit être bien vert, justement, notamment.
Bah, suite à ses déclarations d'avant doit le faire.
Ouais, et puis je pense que c'est pas pour rien qu'il a réagi par rapport à un jeu qui s'appelle ADS2, qui était aussi en early access.
Oui, et qui lui, bah, marche très très bien. Tout va bien pour lui, ne vous inquiétez pas.
Et il n'est pas encore sorti, hein.
Mmh. Ah bah, lui non plus.
Et pourtant, ça va, hein, tranquille, tu vois. Mmh. Donc bon, c'est.
Ah, c'est le complot woke. Hein.
Oui, non, mais évidemment. Évidemment.
Bon, bah écoute, on reparlera, j'imagine, de Thomas Mahler et des frasques de Thomas Mahler.
Bah peut-être, hein, écoute, non mais en attendant, ils vont faire leur petit club, donc avec Julien Chiez, et puis qui on va lui donner à plus. Tim Sorette, ça fait longtemps, tiens.
C'est pas gentil, ça fait longtemps qu'il ferme sa gueule.
Alors, en fait, non, mais en vrai, non, pas du tout.
Ça fait longtemps que plus personne l'écoute.
C'est plutôt ça. Et puis, on va dire que Thomas Mahler est un sac à merde, mais au moins, lui, il a sorti des jeux.
Ah, ça dit les termes. Non, mais ok. Ok. Bah écoute, on en reparlera, je pense. On suivra un petit peu, de toute façon, l'évolution de ça. Effectivement, est-ce que le studio va fermer dans quelques mois à cause des méchants woke?
Ah bah c'est.
Si c'est le cas, on vous en parlera.
Oui, évidemment. Et je dirais, je suis désolé, on avait raison, il y a un complot woke qui a perdu et qui a gagné, qui a fait fermer le studio. Et auquel cas, je dirais, voilà.
Voilà. Bref, on se voit pas la semaine prochaine.
Non.
On ne s'écoute pas la semaine prochaine, plus précisément. Par contre, on sera quand même présent.
Voilà. La semaine prochaine, amis lyonnais, retrouvez-nous chez les Tartes vers 20h pour le quiz Prestart où, comme chaque mois, on va faire un blind test, un quiz sur la pop culture,
séries, films, jeux vidéo,
avec musique plutôt côté rock'n'roll, mais globalement surtout côté déconne. On en met un peu de partout.
Ce sera jeudi prochain.
N'hésitez pas à réserver directement sur les réseaux sociaux de chez les Tartes. Et pour la prochaine émission, ce sera plutôt début juin.
Oui.
Et on garantit rien, mais on va essayer d'amener des gens.
Oui, voilà, c'est ça. On va essayer de les capturer.
C'est ça.
Très bien. Eh ben, merci Xavier.
Merci à toi Romain.
Et passez une bonne fin de soirée.
Salut, à la prochaine.
À la prochaine.
Salut. Ciao.